Vous écoutez
RMC.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, l'after, c'est jusqu'à minuit, 2 heures pour décrypter l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va évidemment parler d'un homme en particulier, un homme qui concentre l'attention entière du football français. C'est Neymar, ce sera dans un tout petit instant avec Oussem Loussaïef. On va également parler de Lyon, Lyon qui a réussi son entame de championnat. Mais les Lyonnais, la saison dernière, avaient tendance à piocher contre les petits. Est-ce que le match face à Angers est le véritable test pour l'Olympique lyonnais? On parlera également des recrues prometteuses côté lillois, le mercato avec Oussem encore indispensable. Et puis à la fin de cette émission, on jouera avec le quiz de l'after. Bienvenue pour cette émission et pour nous accompagner le sniper de Saint-Maur-des-Fossés, Kevin Dias.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et le franc-tireur de Rissorangis, Daniel Riolo.
Salut les amis. Pour Kevin, comme surnom, je pourrais faire la fausse patte néerlandaise.
Oui, effectivement, la fausse passe batave.
Ah, encore mieux.
La fausse patte batave.
La fausse patte batave, encore mieux.
Alors la question qu'on vous pose, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est Neymar peut-il rejouer pour le Paris Saint-Germain un jour? C'était la promesse de l'été, elle est tenue, Neymar est bel et bien un feuilleton de ce mercato estival. Le joueur était absent hier pour la rencontre face à Nîmes, touché au pied, en tout cas c'était la version officielle. La situation du joueur n'est pas fixée tant que contractuellement les choses ne sont pas réglées. Ce premier week-end de Ligue 1 a donc été l'occasion d'un nouvel épisode de cette telenovela Neymar. Et pour nous en parler, Oussem Loussaïef. Alors Oussem, j'en perds mon stylo. Vous venez nous parler d'un cas tout à fait unique.
Tout démarre samedi. Il est à peu près 11h, heure française.
La mise en scène. Et Oussem, t'as pris du galon. Hein. Tu fais des mises en scène. Bravo.
Neymar apparaît tout sourire au camp des loges pour l'entraînement du Paris Saint-Germain. Mais la star brésilienne ne finira pas cet entraînement. Touché à la cheville ou touché au cœur, ouais. Seul l'avenir nous le dira. 13h, sonne au clocher de Saint-Germain-en-Laye. Leonardo entre en piste. De manière informelle, il discute avec les journalistes. Il est question de présentation et d'un certain Neymar. Le directeur sportif l'affirme, des clubs sont entrés en discussion avec le Paris Saint-Germain. Neymar ne verra plus les feuilles de match tant que la situation n'est pas réglée. Dimanche, 20h. Aucun signe de vie de Neymar dans les tribunes parisiennes. Et ça, les supporters l'ont bien remarqué. Les banderoles et les chants hostiles fusent à travers le Parc des Princes. Un prince déchu, Neymar, peut-il encore porter la tunique parisienne?
Merci beaucoup. Bravo. Oussem, on est dedans, voilà le film. Oh là, le film de ce week-end.
Il est en train de prendre celui-là.
Depuis que j'ai fait le match de l'after avec Daniel.
Tout est parti de là,
t'es monté en grade. Voilà. Alors effectivement, la question elle est là pour être un petit peu plus détendu, parce oui. Que sérieux, tu l'étais.
Bien sûr. Il y avait des informations.
Une info, je sais pas, ouais, le clocher de Saint-Germain, c'est quoi ça?
C'est 13h, c'était pour donner l'heure à laquelle Leonardo a pris la parole.
C'est pour donner un peu d'emphase.
Je pensais que c'était un endroit, tu sais, des restos, des fois des bars, qui s'appelle le clocher de Saint-Germain. Je pensais qu'il était sur la place, à Saint-Germain-en-Laye.
C'était au camp des loges.
Oui, mais je pensais, je sais pas, c'était rendez-vous sur la place, en dessous, sous l'église.
C'est le schéma narratif de fait entrer la salle.
C'était à quelques mètres de la salle de conférence de presse qu'il y a eu cette discussion.
Très bien.
Alors, messieurs, au regard de ce qui s'est passé hier au parc, d'un parc qui s'est littéralement retourné contre celui qui a été un temps, peut-être pas très longtemps, son chouchou, est-ce que vous imaginez aujourd'hui Neymar rejouer pour le Paris Saint-Germain?
Écoute, moi, cette question, on a vu tellement de choses complètement délirantes dans le foot que je vais pas dire non de façon définitive, même s'il y a quand même très très peu de chances qu'il rejoue pour le PSG. Mais ce qui m'a interpellé moi hier soir, c'est évidemment d'abord
son absence,
et ensuite banderole et chant. Ça ne m'a pas surpris, vraiment. Je m'y attendais. Il était impossible qu'il en soit autrement. Non, je reviens à ce qui m'a interpellé, c'est plutôt ce qui s'est passé à la fin du match. Et c'est là que je vois dans cette affaire et dans ce qui se passe autour de Neymar une sorte de symbole parfois de la déconnexion qu'il peut y avoir entre les joueurs et le public. On fait tout avaler au public depuis des années. L'augmentation du prix des places, les différents abonnements qu'il faut prendre pour regarder tous les matchs. Plein de choses contre lesquelles il n'est pas toujours facile de lutter parce que bon, l'évolution économique, il y a une sorte parfois de fatalité. Comme ça, tu peux toujours mener des combats. Mais à partir du moment où tu veux être compétitif en Europe, il y a un peu de ce genre de choses-là. Mais il y a un truc que tu vas quand même pas leur faire avaler jusqu'au bout, c'est ce qui se passe devant eux. C'est-à-dire ce qu'il y a sur le terrain. Et comment se comportent les joueurs. Et ça, ça vaut pour Paris, comme je le répète sans arrêt pour Marseille. Ok, on n'a pas de blé, on pourra pas recruter des stars et tout, mais on perd pas le premier match à domicile comme on l'a perdu samedi après-midi. Ça, non. Parce que c'est une petite équipe en face, Reims, même si elle joue bien, même si elle est rodée en termes de jeu et tout. Voilà, ce genre de truc-là, c'est dur à avaler pour un supporter. Je veux bien la patience, il faut que les choses se mettent en route et tout, mais bon. Là, tu vas faire avaler quoi aux supporters du Paris Saint-Germain? Que ce mec-là, qui est une star, qui a reçu l'accueil qu'à l'époque, on va dire, il méritait en termes de star, les gens dehors dans la rue, les fumis, c'était beau, c'était chouette, c'était à la hauteur de la star qu'il prétendait être. Il fait deux demi-saisons, il y a une collection monumentale de déclarations dégueulasses sur le club, sur la remontada, sur son environnement, sur je fais la gueule, sur je fais plus la gueule, je veux plus de blé, genre le caprice absolu. Non mais parce que attention, tiens, même au Brésil, il est considéré comme capricieux et tout le monde le taille aujourd'hui. Neymar, il est quand même en termes de notoriété, on va dire de relationship, je sais pas comment on peut dire ça, de cote affective sur la pente méga descendante. Neymar. Et on veut quoi en gros? Que Neymar, le public continue à dire « Ah, on aimerait bien que tu sois encore avec nous, on aimerait bien que tu sois là et tout. » Et quand je parle de déconnexion des joueurs, je pense à la décla de Verratti, je pense à la décla de lui, mais les autres joueurs qui sont passés en zone mixte hier, en disant « Ouais, c'est... » Alors moi je comprends, il est avec eux au quotidien.
La solidarité du groupe.
Non, même pas, ils ont vécu des choses ensemble, bon, ils ont les joueurs le considèrent peut-être comme un pote, mais les gars doivent comprendre la réaction du public, ils doivent la comprendre.
Mais Neymar, est-ce que lui la comprend?
Et ça j'en sais rien, à la limite, mais je vais te dire, je m'en fous.
On s'en fiche, bien sûr.
Mais attends, je termine. Tourelle lui dit « Je peux comprendre et je peux ne pas comprendre. » Mais non mon grand, tu dois comprendre. On balance pas, on fait pas avaler n'importe quoi. Les supporters, ils avalent, je répète, à longueur d'année, plein de trucs du foot moderne. De je sais pas, moi, quand t'es supporter de Naples, tu vois Sarri partir à la Juve. Ouais. Les supporters de la Juve, ils disent putain, ce mec-là, maintenant, il vient chez nous. Il y a plein d'histoires comme ça qui déjà cassent l'image. Alors, toi, en plus, qui est le grand naïf du foot, Kevin, et en plus, je ne t'accuse
naïf,
pas de ça.
Non, naïf du foot.
Non, mais je ne t'accuse même pas de ça parce que j'aime bien.
Un beau candide.
Non, mais ce que j'aime bien. Non, mais ce que j'aime bien. Moi-même, je me définis comme un romantique. Oui, mais alors, toi, tu l'es encore plus. Hein. Toi, t'es romantique avec les fleurs. Moi, j'ai abandonné les fleurs.
Avec les tulipes, alors.
Oui, les tulipes, pardon. Évidemment, la fausse patte néerlandaise, oui. Non, mais moi aussi, je me suis toujours défini comme un romantique. Mais à force d'année après année, mon romantisme, il en prend un coup. Mais là, quoi, les joueurs, qu'est-ce que vous voulez en zone mixte et tout? Mais juste, ayez la décence. Fermez-la. Ne dites rien. Vous avez enregistré que le public a manifesté de cette façon. Ne veut plus voir la tronche de Neymar. Et c'est normal au vu de tout ce qu'il a dit et de tout ce qu'il a fait. Voilà, la question, on veut plus? Ben oui, on veut plus. Et je termine juste le dernier point du dernier point. Quand les mecs se disent, ouais, c'est sûr, l'équipe, c'est pas pareil. On est peut-être moins fort au Tourelle. C'est un joueur qui fait les décalages. Le public en a rien à carrer de ça. Parce que ça vaudra même pas.
Pas tous, hein, pas tous.
Ça vaudra même pas. Ouais, on va dire 80%. Ça vaudra même pas le début d'une excuse pourrie totale du cul, ça. Parce que Liverpool, Tottenham, ça fait finale de Ligue des Champions sans Neymar. Le Brésil a gagné la Copa América sans Neymar. L'Ajax, ça a fait rêver l'Europe entière l'année dernière avec des mecs que personne connaissait il y a encore un an et demi. Donc le côté, on va perdre Neymar, on sera moins fort, il va être remplacé par machin. Que les mecs au PSG n'imaginent même pas que ça peut servir comme la moitié d'une excuse, parce que je pense que personne ne la supportera, cette excuse-là.
Les statistiques parlent pour Neymar. 57 matchs, 51 buts, 27 passes décisives. Le bilan est plus que positif statistiquement, mais effectivement, les déclarations parlent contre lui.
Kevin, il était là, et encore heureux, quand il était là, il faisait quelque chose, non?
Bon, 51 buts, 27 passes, 57 matchs,
c'est de dire que tu peux quand même gagner sans lui.
La question, Kevin, c'est est-ce que le divorce est consommé aujourd'hui entre le parc des Princes?
Là, tu rentres chez toi, t'as ta femme qui est qui est sur le fauteuil à moitié nu, excuse-moi, si là il n'y a pas de divorce à la clé, moi, qu'est-ce que tu veux faire?
J'ai quand même discuté avec des supporters.
Oussem, tu fais quoi? Tu lui dis de rester à ta femme?
On va y aller ou Daniel, il fait toute l'émission aujourd'hui? Kevin. Donc, moi je suis d'accord bien sûr sur le fond avec ce que dit Daniel. Maintenant, moi c'est pas que je suis un romantique ou un candide ou ce que veut Daniel. C'est que j'essaie d'être réaliste. Alors, on me dit, oui, aujourd'hui, tu peux pas dire que les joueurs n'ont plus de prix, tu peux pas dire que... Mais il y a une genèse à tout ça. Il y a une genèse à tout ça. Et Neymar n'est pas le premier joueur à avoir, entre guillemets, craché ou ne pas avoir respecté l'institution Paris Saint-Germain. Faut se demander pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, on en est arrivé à là? On est obligé de revenir là-dessus. Parce que une histoire, elle se finit, mais elle a bien commencé quelque part. Et c'est souvent le début qui est important. Et à partir du moment où, pour reprendre un peu leur slogan, avec Neymar, je l'ai déjà dit, le PSG a rêvé trop grand. Eh bien, aujourd'hui, c'est le revers de la médaille. Et donc, les supporters, malheureusement, eux, ils n'y sont pour rien. Bien sûr qu'ils ont rêvé avec Neymar, n'importe
mais qui. Mais ils ont le droit de plus vouloir voir sa tronche.
Oui, mais c'est pas tous les supporters. Faut pas oublier. Il y a des supporters encore qui ont envie que Neymar reste.
Mais c'est quoi?
Ce qui serait plutôt logique.
C'est quoi? Non, combien? T'évalues à combien le pourcentage?
Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai des supporters amis parisiens qui me disent, si Neymar reste, il reste. Maintenant, va falloir qu'il respecte l'institution.
Alors,
avec
mais
Leonardo.
S'il reste, va falloir qu'il...
Maintenant, est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il va rester? Je ne pense pas. Je pense que son histoire, déjà, elle avait mal commencé. Comme je viens de le dire, elle aurait même jamais dû commencer, peut-être. Mais en tout cas, elle a mal commencé, les blessures, voilà, les écarts de conduite, les passes droits, c'était pas possible. Je pense que le costume était trop grand, non pas pour Neymar, mais pour le PSG avec ce joueur-là. Maintenant, j'ai discuté avec des collègues là dans la rédac de RMC Sport qui me donnaient un sentiment qui était très intéressant. C'est João Henrique Marques, qui est un des journalistes brésiliens qui suit Neymar au quotidien. Peut-être que tu l'as déjà croisé.
Oui,
et qui disait que lui, en fait, Daniel, hier au parc, il a été choqué. Il était vraiment très surpris de la réaction.
Il y a 1000 journalistes brésiliens qui sont pas choqués, qui
en tout cas lui,
et qui le critiquent beaucoup. Bien, mais l'autre parce que c'est le correspondant à Paris et qui l'a bouffé pendant 2 ans grâce à Neymar.
C'est ça. C'est
donc il fait la gueule. Arrête, Kevin. Deux secondes.
Tu cites un très proche de Neymar.
Ah ok.
Non mais c'est pas des journalistes, c'est les suiveurs. Okay. C'est les premiers followers sur Instagram.
Il était choqué dans le sens.
Mais choqué.
Mais moi je suis pas choqué parce qu'on fait parce.
Or, il manquerait plus que ça.
J'aurais pas été jusque là, mais on va dire que les supporters soient entre guillemets et la rage contre Neymar, je trouve ça logique et normal. Il y a pas de souci. Ben voilà. Ils payent leur abonnement, ils aiment leur club, ils étaient là sûrement pour beaucoup avant les Qataris et un joueur qui se la raconte et qui respecte pas le club, moi ça me pose pas de problème qu'ils en veulent plus. Maintenant, il faut aussi voir le regard qu'a l'Europe du football, voire le monde du football, sur ce qui se passe aujourd'hui. Il faut pas dire que c'est que de la faute de Neymar. Ça, je laisserai pas dire ça. C'est de la faute de Neymar et du PSG. Et aujourd'hui, heureusement, il y a Leonardo qui arrive et après je termine. Et Leonardo, lui, il voit bien que voilà cette histoire, elle aurait même peut-être jamais dû commencer.
C'est la faute du PSG dans la gestion qu'ils ont eu de Neymar pendant les 2 ans. Bah évidemment, bien sûr.
On est d'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les deux se serrent la main. Et puis, je sais pas s'ils vont souhaiter bonne chance, mais en tout cas, il faut qu'ils se séparent. C'est clair.
Oussem, il y avait jour de repos aujourd'hui.
C'est-à-dire
au PSG.
Oui.
Et où il est Neymar? À Barcelone.
On sait pas, on n'a pas l'info en tout cas.
Mais moi je te le dis, là à Barcelone.
Alors, pour situer contractuellement en tout cas ce qui se passe actuellement autour de Neymar, alors Leonardo est très intelligent dans sa manière de communiquer, puisque lorsqu'il s'adresse officieusement aux journalistes, il dit il doit régler sa situation. Il dit pas il doit partir, il dit il doit régler sa situation, qu'il reste ou qu'il parte. Mais là où il est intelligent, Leonardo, c'est qu'il montre à tout le monde que c'est lui maintenant qui est en position de force, que ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, ce n'est pas Neymar, c'est Leonardo et le PSG, donc ensemble, qui décident de la suite du dossier. Et donc, il laisse le choix maintenant à Neymar d'agir vite. Et pour revenir à Neymar, c'est lui qui avait demandé à partir, et il avait demandé à partir du côté du FC Barcelone. Donc là, avec l'entrée du Real Madrid, Leonardo utilise bien l'entrée des deux
bien
clubs
sûr,
dans la
parce
discussion.
Que et il a d'ailleurs très intelligemment attendu la fin du mercato anglais pour éviter aussi les différentes surenchères possibles.
Ouais, parce que déjà qu'il y a pas mal de surenchères avec les Anglais, alors si le Paris Saint-Germain s'y met aussi, ça va plus être...
Non mais Kevin, plus globalement, et pas que Kevin, nous quatre ici, qu'est-ce qui fait que tu respectes un joueur, toi, au-delà de la qualité technique du mec et
l'attitude.
Tout ça. Tu vois, pardon, je te prends le cas de figure. Si Neymar, déjà, j'ai beaucoup moins de respect pour lui, mais
t'as pas de respect pour lui, en fait, je comprends pas.
S'il va au Real, bon, moi, j'ai zéro respect pour ce mec-là.
Oui, non, mais je vois ce que
non,
tu veux dire.
Non, mais pour moi, c'est un type, c'est un type qui vaut rien, qui a aucune valeur.
Mais est-ce que, mec, je pense pas qu'il a envie d'aller au Real.
Non, mais
Lui, en tout cas, il a toujours dit
le cas de figure que je te pose, c'est si demain le deal se fait, il va au Real. Pour moi, ce mec-là, il a rien, quoi. Il a rien. Déjà, son attitude avec la sélection.
D'un côté, tu me dis que il faut pas que je sois ingénu quand, ou il faut pas être candide quand on dit,
que
le football, c'est trop l'argent,
Non, mais quels sont les joueurs aujourd'hui, historiquement, qui sont les plus respectés si tu prends les supporters en général et tout?
C'est Gerrard,
c'est
Totti. Frank Lampard, c'est Totti, c'est ces mecs-là. Non, mais alors, ça, c'est le cas extrême. Le mec qui reste tout le temps dans le club. Mais après, même chez les mecs qui bougent.
Mais Figo, par exemple, il a bougé. C'est pas pour ça qu'il est moins respecté de ce qu'il a fait dans sa carrière.
Bah, je pense que tu demandes à un supporter du FC Barcelone.
Du Barça, peut-être, mais regarde, nous qui sommes lambda, qui sommes ni supporters de l'un de l'autre, moi je trouve pas que Figo, c'est un traître.
Ça va s'oublier, ouais.
Voilà. Après Neymar, il a quand même dit qu'il voulait aller au Barça. Mais, maintenant, si le Barça peut pas l'acheter.
Non, mais je te dis qu'il y a une sorte, d'échelle. Figo, il fait ça, c'est, on va dire, le seul point. Pour le reste, que ce soit avec sa sélection, le comportement qu'il a eu dans tous les clubs, ça, il y a ce genre de choses, ça arrive. Moi, je te parle d'une sorte d'échelle. Tu demandes aux gens et tout. La plupart, ça compte quand même beaucoup, l'attitude, le comportement, ce que le mec. D'ailleurs, si on s'amuse à faire les équipes types ou les joueurs que vous avez préférés, à tous les supporters, peu importe leur club, vont ressortir dans les cinq premiers. Pas forcément les meilleurs joueurs historiquement. Aujourd'hui. Il y a concordance, pardon, pas Lyon, les supporters de Lyon vont dire Juninho. Oui. Aussi bien c'était le mec. Mais le mec, forcément, d'abord, l'essentiel de sa carrière dans le club, attitude toujours parfaite, et puis il revient comme directeur sportif. Bon, en cote affective, il est à 10 sur 10. Ah, tu prends Marseille, tu demandes à tous les supporters de l'OM un classement des 5 premiers et tout. Il n'y aura pas toujours les 5 meilleurs en absolu.
C'est pas toujours les plus brillants.
Neymar, aujourd'hui, enfin, vraiment, en termes de respect, même pour des mecs neutres, ils disent, OK, ça peut être un super joueur, mais bon, il vaut pas grand chose, quoi.
Daniel, je peux pas te laisser dire.
Daniel, on va aller voir Ando.
Évidemment que c'est un grand joueur. Qui va te dire que c'est pas un grand joueur? Mais quand il gagnera quelque chose, il vaudra moins que Messi, Cristiano Ronaldo. Il a changé de club, Cristiano Ronaldo. Oui. Non. Mais peu importe, il a un comportement qui est toujours parfait dans ses clubs. Il est nickel, ce mec-là.
Oui, on est d'accord.
Benzema, il est autant aimé au Real qu'à Lyon.
Oui.
Mec, il a toujours été nickel dans les clubs.
On va aller demander justement aux supporters du Paris Saint-Germain, et notamment Ando qui est avec nous. Bonsoir Ando.
Bonsoir messieurs.
Salut. Alors, salut. Toi, Ando, c'est le supporter malgache.
Absolument. Exactement. Absolument. Il est également supporter malgache. Il a vécu une belle Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Ando, justement, on parlait de l'importance aux yeux des supporters parisiens ou non de Neymar. Pour toi, qu'en est-il? Est-ce que tu n'en veux plus, ou est-ce que ses performances, je parlais de 51 buts, 27 passes, font que tu te dis, bah, s'il reste, ça peut quand même être un sacré coup de main?
Alors, pour commencer, moi honnêtement, et on va le dire, c'est facile de le dire maintenant parce que voilà, c'est après 2 ans, mais moi j'en ai jamais voulu de Neymar. C'est un super joueur. Techniquement, il sait faire gagner des matchs, il n'y a pas de souci. Mais au Paris Saint-Germain, quand on sait, quand on connaît le club, l'histoire du club, comment fonctionne ce club dans cette ville, et la patience des supporters, il n'y avait rien qui pouvait marcher. C'est-à-dire qu'on peut aimer le football, la technique, être amoureux du foot, aimer les dribbles, voilà. Juste au Paris Saint-Germain, c'est pas possible.
Pourtant, Ando, souviens-toi, quand il est arrivé, on parlait de la filière brésilienne, de la culture des Brésiliens
Ando,
à Paris.
Ando, je pose la question à Ando et Daniel. Ronaldinho, est-ce qu'il a respecté le Paris Saint-Germain dans son attitude au quotidien? Ouais, j'ai une question pour vous. Je veux voir ce que Daniel va me dire. Une des plus grandes stars de l'histoire qu'on a tous adoré. Est-ce que vraiment il a respecté le Paris Saint-Germain dans son attitude au quotidien?
Alors. Et là, tu tombes vraiment très très mal avec moi sur le sujet. Parce que pour moi, il n'est même pas dans les 20 meilleurs joueurs du PSG.
Mais tu vois ce que je veux dire.
Merci Daniel.
C'est quand même un grand joueur du PSG. Mais
qu'est-ce que tu as dit, Kevin?
C'est un des plus grands joueurs qui est passé par le PSG ou pas?
Attends, chacun sa sensibilité.
On est d'accord qu'il a une bonne image ou pas pour les supporters?
Le temps lui a redonné une image convenable.
D'accord.
Et en plus, attends, Ronaldinho avait toujours cette attitude très sympathique, souriante.
Mais Neymar aussi, il est sympa.
Non, il s'est blessé. Rien à voir.
Il ne faut pas oublier que 2 ans de suite, c'est pas qu'il voulait plus jouer pour le PSG.
Ronaldinho n'a jamais fait de caprice. Il faisait pas de caprice.
Il faisait d'autres choses quand même.
Oui, mais il faisait pas de caprice. Okay. Le côté capricieux, genre je suis là, le blé, mon père, machin. Ça, c'est insupportable. Et en plus, vraiment, tu tombes mal. Moi, je pense que à table avec des gens qui connaissent l'histoire du PSG, je pense que je m'en sors plutôt pas trop mal.
Ouais, c'est sûr.
Bon, Bah oui, moi, excuse-moi, certains ont oublié ce qu'il faisait dans son passage, mais les mecs qui choisissent les matchs, j'aime pas trop. Il a pas eu toujours. Moi, il est pas dans les 20 de mes joueurs préférés.
C'est un Brésilien, quoi.
Ouais, bah je préfère largement Valdo, je préfère Ricardo, Rai. Je préfère Rai, oui. Des Brésiliens.
Mais il voilà, y a deux types de Brésiliens, il y en a qui sont plus ou moins sérieux,
bah,
tu sais.
Ça en fait déjà trois que je préfère Messieurs. À lui. Après, je te dis pas que sur certains matchs, il a pas été fantastique, évidemment. Évidemment, mais voilà, excuse-moi, chacun sa sensibilité sur les joueurs.
Messieurs, sur Neymar peut-il reporter un jour la tunique du PSG? Je voudrais l'avis de Ando qui nous a appelé au 32-16.
Mais c'est inenvisageable. C'est inenvisageable, pour la simple et bonne raison que là, ce qui s'est passé hier soir, c'est le symbole même d'une incompréhension totale de ce que le clan Neymar a fait.
Le mec, il vient même pas au match.
Il a peut-être dit de pas venir.
Exactement. Bah moi, j'ai attendu l'image de voir Neymar au stade et de voir en direct la réaction du parc. Après, est-ce qu'on aurait dû le siffler dès maintenant, dès le 11 août? Je sais pas. Moi, ce que je veux là, par exemple, c'est si Neymar ne part pas, j'espère vraiment que nous, supporters parisiens, on va se contenir jusqu'au 2 septembre, 3 septembre, je ne sais plus c'est quand la fin du mercato. Et qu'à partir de cette date-là, on le pourrit, qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Mais j'aurais autre chose à dire, parce que c'est facile de taper sur Neymar. Il est ce qu'il est, et voilà son attitude et tout. Mais les premiers fautifs, c'est les dirigeants.
On est d'accord.
Ouais, mais ça, Kevin l'a dit, oui.
Accorder un tapis, accorder tout ce qu'il y a eu autour de lui, la Tour Eiffel, etc., le tour au stade il y a 2 ans. C'est eux les premiers fautifs.
Non, mais on est d'accord, Ando.
Un supporter à un degré moins, les passionnés, les abonnés, etc., avant le Qatar. Moi, hier, j'étais à Boulogne, j'avais deux voisins. Je pense qu'ils regardaient le film de TF1 dimanche à 21h, c'était la même chose. Ils étaient assis, ils ne bougeaient pas. Ils n'attendaient qu'une chose, juste leur spectacle.
Bon, après, chacun fait ce qu'il veut dans la tribune, Ando.
Il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde était là pour se dire que c'est le Paris Saint-Germain, il y a une grande équipe et tout. Mais dans cette équipe-là, aujourd'hui, Neymar n'a pas sa place. Et quand j'entends Kylian Mbappé ou Verratti dire enfin après match « Ouais, c'est pas la même chose et tout », ces mecs-là, juste, je sais pas, genre, est-ce qu'ils ont peur de quoi que ce soit? Même eux, ça veut nous dire qu'ils ont même pas confiance en ce qu'ils peuvent produire. Et voilà.
Ça c'est une bonne remarque que j'ai évoqué un aspect de cette remarque, mais t'en évoques un autre qui est très intéressant. C'est effectivement, une fois qu'il sera parti, si psychologiquement les mecs continuent de penser qu'ils sont moins forts parce qu'il est pas là, ça peut poser aussi un petit problème mental.
Bon, je sais pas. Juste pour finir avec ça, Timothée. Pourquoi je te parlais de Ronaldinho? C'est pas que je veux défendre Neymar. Je dis que quand tu prends une très 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 grande star, peut-être une des, c'est peut-être avec Messi et Ronaldo, je vois pas quelle plus grande star. Voilà. Donc tu prends une très très grande star.
Son statut, il prend un coup quand même. Hein.
Oui, d'accord, mais tu prends
grande star.
Au moment où il arrive.
Aujourd'hui, mais au moment où il arrive,
c'est une très très grande star.
Meilleur joueur à ce moment.
Donc on est obligé de le comparer avec les très très grandes stars qui sont passées au PSG.
À ce moment-là, oui.
Donc Ronaldinho, mais Zlatan. Est-ce que dans ses déclarations, Zlatan a toujours respecté le PSG et son histoire?
Et alors, j'ai jamais publié Zlatan pour ça.
Non, mais il a été d'un professionnalisme. Il a été d'un professionnalisme exemplaire.
Oui, mais attendez.
Il a même apporté du professionnalisme au PSG.
Arrêtez de me dire que Neymar n'a pas été professionnel. Tu viens de rappeler ses stats. Il a été blessé.
Il a été blessé. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a jamais vu Zlatan faire l'extra sportif qui pose quand même un peu problème dans le foot moderne.
Exactement.
On l'a pas vu organiser un anniversaire avec Fast et Payet.
Oui, mais Zlatan est beaucoup plus pro. Mais Neymar, c'est un pur produit. Neymar, c'est un pur produit du foot business que tu veux.
Et ben je déteste
que
ça.
Mais moi aussi, je déteste ça.
Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Ça fait rêver les 15-25 ans. Pour les 15-25.
Mais moi, ça me fait pas rêver non plus.
C'est les supporters en culotte courte.
Ça me fait pas rêver non plus.
Ils ont un kiri dans une main, l'écharpe dans l'autre, et puis ils sont contents. Mais moi, c'est pas.
Mais on est obligé de l'expliquer quand même.
Ouais, ben j'explique et j'espère que ces jeunes-là, peut-être avec l'âge, ils comprendront que le foot, ça n'a pas toujours marché comme ça. Mais je sais qu'aujourd'hui ça marche beaucoup comme ça.
Mais je termine juste par dire, moi je préfère Rai que Neymar dans ce qu'il apporte dans un club.
On va pas rentrer dans le classement des Brésiliens
que vous avez préféré pour finalement dire que ce que j'ai dit était juste.
Tu es un romantique.
Pour clôturer, on va prendre Aubin. Aubin, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, salut l'after.
Alors supporter du Paris Saint-Germain, est-ce que tu imagines Neymar à nouveau sous le maillot du Paris Saint-Germain après la bronca d'hier, après les banderoles d'hier et un divorce semble-t-il consommé avec le public?
Bah écoute, c'est une super question. Déjà, en préambule, je dirais que tout à l'heure, Daniel, t'as été sympa avec Kevin de dire qu'il n'y a que 20% des Parisiens qui ne veulent plus voir Neymar. Je pense qu'on frôle les 100%. C'est nord-coréen le score. Mais pour parler plus sérieusement, écoutez, moi, je pense qu'il faut pas s'affoler. Il y a tous les supporters, on s'affole trop. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai une théorie. Dans tous les deux cas, qui partent ou qui restent, le PSG va sortir gagnant. Ouais. Je vous explique pourquoi. Le mec, on le garde. On montre, on fait quoi? On montre à l'Europe que l'institution est plus forte. Il voulait partir. Tout le monde a su qu'il voulait partir. Le PSG avait des conditions. Elles ont pas été requises. Mon pote, tu restes et tu joues. Et connaissant Neymar, le mec qui pense qu'à sa gueule, qui cherche le ballon d'or, et il a raison, hein, le footballeur moderne, c'est ça. Il va bien jouer parce que je le vois pas être sur le terrain et faire exprès de rater des buts. Donc, dans tous les cas, on est gagnant. Le deuxième contexte, c'est lequel? C'est qu'il s'en aille. Le PSG a fixé ses conditions, les conditions ont été réunies. On prend un beau chèque avec un ou deux joueurs avec, et si c'est pas trop la fin du mercato, on peut encore faire un joueur avant la fin du mercato. On se retrouve avec une équipe type Liverpool, c'est-à-dire pas avec des grosses stars, mais avec des belles individualités, pas de grosses stars, et c'est comme ça qu'on peut aller loin en Ligue des Champions. Après, mais je pense qu'il faut éteindre le feu un peu avec ça.
C'est pas que je veux pas aller dans ton sens, mais pour que le PSG s'en sorte bien, il faut qu'il gagne quelque chose. Faut qu'il fasse un beau parcours en Ligue des Champions.
Mais là, on n'est pas là, on est au début de la saison, Kevin.
Ouais, mais il dit qu'ils vont bien s'en sortir. Moi, je suis pas sûr. Pour l'Europe du football, ils s'en sortent bien avec leur image, le PSG. Moi, j'en suis pas sûr.
Mais là, tu t'en fous, t'es pas en train de bosser sur. Depuis le début, il cherche qu'à travailler sur le terrain avant de bosser sur l'image.
Aubin, merci beaucoup. La voix de la sagesse, en clair. Si un problème n'a pas de solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Si un problème a une solution, s'inquiéter ne sert à rien. C'était plus ou moins ce qu'a voulu nous dire Aubin.
Quel homme.
C'est philosophe. Eh oui,
quel homme. Quel homme. Non, c'est pas de moi, c'est du 14e Rinpoche. On revient dans quelques instants pour vous parler de l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup, Oussem. On revient tout à l'heure pour le Mercato Show. On va vous donner tous les transferts de cette journée. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h30, de retour dans l'After pour continuer à décrypter l'actualité du football. On va parler désormais de l'Olympique Lyonnais dans la deuxième heure. On vous parlera de Lille, on vous parlera également de l'Angleterre. Le championnat a repris en fanfare du côté de la Première Ligue et puis on jouera avec le quiz de l'After. Mais avant cela donc, l'OL, sauce brésilienne, ça marche. Mais est-ce qu'Angers sera le vrai test pour une équipe souvent en panne contre les petits? Vous le savez, cette formation montre souvent un certain brio et ça a été le cas la saison dernière face aux grandes équipes. Ils ont été excellents en Ligue des Champions, ils ont brillé l'année dernière contre des équipes des cadors de la Ligue 1 à l'image de Marseille ou du Paris Saint-Germain. Mais Lyon a aussi fait preuve de supériorité face à des équipes moins huppées. Du coup, vendredi, l'Olympique Lyonnais sera à Angers. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable test pour ce nouvel OL New Look, savoir s'ils sont capables de maintenir leur niveau de performance?
Bon, Kevin. Déjà, je pense qu'on peut commencer par dire, je sais pas si, avec tout le respect pour Monaco, en tout cas sur ce premier match, je suis pas sûr que Monaco avait une grosse équipe, vraiment. Et Lyon a bien maîtrisé son sujet et a vraiment fait preuve de beaucoup de sérénité, de beaucoup de maîtrise dans son jeu collectif, hein, pas forcément que sur les actions où ils ont été dangereux, mais même dans la façon de remonter le ballon, dans la façon d'avoir la possession, de défendre avec le ballon, comme on dit. Je les ai trouvés vraiment très très intéressants. Après, on peut toujours se tromper, mais j'ai pas l'impression que cette année, Silvinho va laisser cette équipe lyonnaise se reposer sur ses lauriers et qu'ils vont vraiment avoir à cœur devant leur public. Ils ont déjà répété, hein, Silvinho, Juninho ont déjà répété qu'ils veulent l'appui du public parce que eux, en tout cas, ils vont tout faire pour pousser les joueurs à donner du spectacle, à être irréprochables à domicile. Et comme tout entraîneur de haut niveau le sait, si vous voulez faire une bonne saison, il faut être très très fort à la maison.
Daniel, la réussite de la saison lyonnaise, elle passe par cette capacité justement à reproduire des matchs de bon niveau face à des petits. Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'erreur?
Bien sûr, dès vendredi, on va immédiatement voir ça parce que on va se souvenir de tous les matchs ratés de la saison dernière. Après, comme dit Kevin, le problème, c'est que vendredi, ils n'ont pas eu ce premier test Lyon. Plus, je me faisais une joie, moi, d'être sur place et de voir le premier match de la saison là-bas. C'était très chouette, mais malheureusement, ça n'a duré que 10 minutes parce qu'il y a eu ce carton rouge qui a un peu tout foutu en l'air. Oui. Carton rouge nouvelle génération, carton rouge VAR comme le Péno VAR hier au parc. Il faut s'y faire absolument à ça parce que sinon on va se faire des cheveux blancs plus vite que prévu.
On n'est pas obligé de s'y faire,
on est obligé de s'y faire puisque c'est comme ça.
C'est comme le foot business, tout ça, on doit s'y faire. Bah, le foot qui pourrit.
Tu veux ressortir ton truc là quand il y a un problème, quand il y a pas de solution machin, parce que moi je veux bien si tu me dis où faut aller manifester.
Non, mais tu sais, à un moment.
Tu peux aller voir jouer des équipes en district. Il y a pas encore la VAR.
On a même le droit de regarder. Mais là maintenant, en fait, le truc c'est que. Voilà, faut s'y faire. Quand j'ai vu que l'action était arrêtée vendredi et qu'il est allé voir le truc, j'ai dit attends, mais c'est pas possible, il va pas prendre carton rouge là-dessus. Comme hier, le péno, là, ça avait continué l'action. On revient, on va sur le péno, le ballon lui rebondit sur la main, il y a péno. Et à chaque fois, je m'énerve. Et je vais.
Ah non, moi je suis pas d'accord. En fait, il faut continuer à s'énerver parce que tu vois, dans le football, il y a eu des choses.
Oui,
il y a eu des choses comme le ballon d'or.
Parce qu'il y a autre chose, il y a autre chose à faire dans ta vie que t'énerver pour ça.
Juste un truc, le but en or, par exemple. Ils l'ont mis.
Et ils l'ont enlevé.
Ils l'ont enlevé.
T'as raison.
Donc c'est mon petit espoir de me dire ce truc est tellement naze qu'on va peut-être l'enlever un jour.
Bon exemple, alors, retour à l'Olympique Lyonnais. Ouais.
Donc pour moi, à mon sens, il n'y a pas eu de match. Beaucoup sont inquiets pour Monaco, mais d'ici la fin du mois, je pense qu'il va y avoir tellement de mouvements dans l'effectif qu'il y aura matière à se redresser. Et après, à Lyon, comment veux-tu, sur un match où tu joues à 11 contre 10, tu peux toujours noter qu'un tel a été plutôt pas mal. Oui, que Thiago Mendes n'est décidément, et je crois pas, un 6. Et que donc, s'il continue avec ce milieu à 3, il va quand même falloir qu'il trouve une solution. Touzard peut se battre comme un beau diable, être l'homme qu'il est souvent, c'est-à-dire une méga mentalité. Mais pour le haut niveau et Ligue des Champions, je sais pas si ce sera suffisant. Donc dans ce schéma en 4-3-3, on voit bien que Dembélé a l'air d'être parti pour faire une bonne saison. Donc en tout cas, il a gagné beaucoup en confiance. Il y a des choses assez positives comme ça. Mais effectivement, ce match, on l'a déjà oublié. Donc on revient au sujet, c'est-à-dire le match qui va venir. Et oui, Angers peut effectivement faire partie du premier test pour Lyon, parce que c'est le genre de match dans lequel il n'était pas très bon l'année dernière. Une formation qui se démerde bien en contre, qui va jouer plutôt bloc bas, c'est là qu'immédiatement on va repenser à ce qu'on voyait l'année dernière et aux difficultés que Lyon avait de faire le jeu, de faire le pressing, parce qu'en matière de pressing, on m'avait dit ils sont mis au pressing, chacun fait ce qui est contre Monaco, on l'a pas vraiment vu ça, très peu de phases, on l'a pas beaucoup vu le en plus je dis super victoire numérique les a aidés,
de pas être en vrai, j'ai quand même aimé leur transition,
ils ont plus bossé
un peu plus réactif, tu vois.
Ouais.
Messieurs, le choix de Denayer comme capitaine, dont le fighting spirit n'est pas à remettre en cause, ça peut aider Lyon à élever son niveau de jeu contre les petits, à ne pas se reposer sur ses lauriers, comme vous le disiez.
Je sais pas si le capitaine aide dans ces cas-là. Mais en tout cas, Denayer, c'est un bon choix. J'aime de plus en plus ce joueur qui a quand même tout sauf l'allure d'un grand joueur, et pourtant c'est un vrai bon joueur, vraiment. Il a cette espèce de nonchalance avec son allure, genre je vais à deux à l'heure, mais il est tout le temps bien placé, il voit juste.
L'air de rien, c'est une révolution. Hein. Ça fait 10 ans qu'un capitaine nommé en début de saison n'est pas un joueur issu du cru lyonnais. C'est quand même un signe de la part de Juninho.
Il y a eu révolution cet été, donc elle continue.
Ça aurait pu être Anthony Lopez, peut-être.
Maintenant,
peut-être que l'entraîneur brésilien n'est pas fan des gardiens capitaines. Après, Aouar, il est un peu jeune. Touzard, mais je pense que le cas Touzard, il est intéressant. Souvent, Daniel dit que, et a raison, et on a tous remarqué que certains joueurs français, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils passent un cap. Ils se mettent au niveau de l'exigence des grands clubs étrangers. Et j'ai l'impression que Touzard, il pourrait nous faire ça, mais de l'intérieur.
Tout en restant en France.
Tu vois, tout en restant en France. Pourquoi pas. En ayant été piqué au moment de la conférence de Juninho, où il avait dit, c'est vrai.
Et
il a été piqué. Et là, je trouve qu'il a réagi vraiment comme un sportif de haut niveau. Ce que je disais ce week-end, il a réagi comme un joueur qui veut montrer à son entraîneur.
Et comment tu passes sur les limites de lui, là, le truc, c'est la passe vers l'avant, la prise de risque.
Tu vois, la prise de risque sur le but, par exemple.
Ouais,
il prend un risque.
C'est pas le premier.
Ouais. Il y a peut-être un dépassement de fonction où le mec il se dit voilà, là il y a un entraîneur qui arrive.
Il se lâche plus quoi.
S'il y a un entraîneur qui arrive, de toute façon si je me lâche pas à l'intersaison, je suis sur la liste du transfert.
Ce serait la surprise de l'année si Touzard se met à un niveau Ligue des Champions.
Et ce serait bien que Touzard.
Moi je le souhaite parce que j'adore le type.
Oui, il a un bon état d'esprit, donc s'il a l'intelligence et s'il a le mental d'un champion, d'un sportif de haut niveau. En tout cas, c'est ce qu'il nous a montré depuis cette préparation et dans ce premier match, en étant titulaire et en répondant présent, avec ce but en plus.
Attention, ils n'ont pas d'autres 6. Hein.
Donc c'est pour ça que peut-être on a parlé d'Enzonzi un peu.
Ah, s'il recrute.
Parce que moi, j'ai dit un autre truc ce week-end et ça, je trouve que ce serait une bonne solution. Je me suis dit, est-ce que Jean-Michel Aulas va pas, si tu vois, s'il gagne encore le prochain, peut-être même celui d'après, à 2-3 jours de la fin du mercato, est-ce qu'il va pas rentrer dans le bureau des deux Brésiliens là et leur dire bon, qu'est-ce que vous avez besoin pour aller vraiment titiller le PSG? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on vous ramène un, deux joueurs, peut-être quel poste? Est-ce qu'on va avoir peut-être aller 3-4 jours? Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, il dit le contraire. Voilà, il dit bon, on a gagné les 3 premiers matchs, on a besoin de rien.
Ouais, on est déjà sûr du podium.
On est déjà bien.
En tout cas, côté lyonnais, les fonds semblent le permettre. Anthony est supporter de l'OL, il nous a rejoint au 32-16. Merci Anthony, salut.
Ouais, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde.
Salut. Salut Anthony.
Alors Anthony, la saison dernière, tu as dû vibrer pour les victoires de l'OL dans les grandes rencontres, en Ligue des Champions contre ouais. Paris, et puis t'arracher les cheveux contre les petits, contre Reims, contre d'autres. Est-ce que pour toi, ce match face à Angers est finalement le vrai test mental pour cette formation de Lyon?
Ben, tu vois, c'est marrant, c'est exactement ce que je disais à votre standardiste, c'est que moi l'année dernière j'ai fait beaucoup de matchs à Lyon, j'ai fait deux gros matchs, le derby et Marseille, et les 4-5 autres matchs que je suis allé voir, parce que je suis pas tout à fait à Lyon, je suis à 150 bornes, enfin bref, c'était que des petits. Et contre les petits, même les matchs qu'on a gagnés, je me rappelle, j'avais fait le premier match de la saison, c'était Amiens, on a gagné 2-0, ça avait été nul. Mais dans tout, c'est-à-dire dans le jeu c'était nul, dans l'attitude c'était nul, les gens au stade se faisaient chier, il se passait absolument rien. Donc clairement l'année dernière, moi je me suis amusé, j'ai regardé le classement. Si on faisait, c'est un classement contre les 5 premiers, contre les 5 derniers. Si on fait un classement contre les 5 premiers, on aurait fini deuxième parce qu'on a une seule défaite contre les 5 premiers du championnat, c'est à Paris. Le reste c'est 2 nuls contre Lille, 2 victoires contre Marseille et 2 victoires dans le derby. Par contre contre les petits, et ben à chaque fois on se fait attraper, et en plus tu peux te faire attraper une fois de temps en temps sur un match où t'as pas de chance, le gardien est en feu. Mais nous, c'est qu'à chaque fois, on perdait. Mais le pire, c'est qu'on méritait largement de perdre. Et que cette année, c'est là où on les attend. En plus, Juninho et Silvinho, dans leur conférence de presse, ils ont pas arrêté de parler à chaque fois d'attitude, d'investissement, d'humilité. Et donc, d'avoir un match comme ça contre une équipe qui va nous attendre très bas et qui va nous proposer tout ce qui nous a embêté depuis 3 ans, moi, ça, je trouve que ça va être super intéressant.
Mais c'est là, de toute façon, Anthony, c'est là, de toute façon, où on attend Silvinho. Parce que c'est ce qu'on reprochait justement l'année dernière à Genesio, voire les saisons précédentes. C'est-à-dire que oui, il y avait de la qualité dans cet effectif. Dans les gros matchs, les joueurs cadres arrivaient à se sublimer. Hein, Fekir nous mettait toujours un coup franc, une frappe, un truc. Il y avait toujours un Depaille qui mettait une lunette contre l'OM. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est contre les petites équipes où en fait les joueurs ont moins d'idées, où il y a moins d'espace, où il y a moins de solutions. Et c'est là où les équipes comme City, comme le Barça, arrivent par leur maîtrise collective, par leurs automatismes, par leurs enchaînements, à trouver des décalages et à trouver les phases de jeu qui permettent de mettre en difficulté des blocs bien resserrés.
Anthony, cette question pour toi, on dit souvent qu'il faut deux équipes pour faire un bon match. Est-ce que Lyon n'y arrive pas uniquement mentalement, ou est-ce que Lyon a aussi besoin d'avoir une équipe qui joue pour être capable de son côté d'avoir du répondant et de jouer? Est-ce que c'est aussi ce que disait Kevin à l'instant,
trouver aussi les solutions. Tu prends le match d'hier soir, bon au bout d'un moment on s'emmerde quand même. Il y a une équipe comme Nîmes qui s'est mis bloc bas, qui ne peut rien faire quand ils ont le ballon, le pressing est tellement fort que de toute façon ils le perdent au bout de même pas 4 secondes, 5 secondes. Ça c'est ce que Lyon n'a jamais fait contre les petits. Que tu te retrouves dans un match ennuyeux parce que l'autre est acculé, ok. Mais Lyon n'arrivait pas à faire des séquences de pressing aussi importantes. Ce que le PSG fait contre Nîmes hier, pardon, prenons le cas de figure, c'est un match qu'on a vu 100 000 fois au Parc, hein. Ok. Que tu n'aies pas les joueurs pour utiliser le ballon une fois que tu l'as récupéré vite. Prenons l'exemple du but où Verratti va dans les pieds, il se relève immédiatement, il trouve Mbappé, ouverture pour Di Maria. Ça, action magnifique, super bien joué, à la récup, exploitation. Que tu n'aies pas les joueurs éventuellement pour aller au sud. Et encore, Lyon en a des bons joueurs. Ça, je peux le comprendre. Bah, t'as pas les joueurs. En revanche, les séquences de pressing et tout ça, excuse-moi, c'est pas les millions qui font ça. T'es un mec, c'est un effort physique, tu le travailles à l'entraînement.
C'est un effort surtout mental.
Mental, la séquence, tu la bosses ensemble. Si le premier qui déclenche, les autres suivent. En même temps, pour étouffer, tu sais, genre toi le dernier, comme Saki appelait ça. Et puis voilà, ça, beaucoup d'équipes pourraient le faire. Après, est-ce qu'elles veulent le faire, pas le faire, ça c'est encore autre chose. Mais Lyon devrait s'aligner sur ce genre de standard-là. C'est-à-dire, il joue Angers, mais Angers devrait passer la ligne médiane. Pas 0 fois quoi, mais 10 fois quoi. Il devrait rarement créer le danger. Il devrait être en pressing quasi constant, comme le PSG l'a fait hier. Enfin bon, ils le sont pas en constant, mais ils alternent. Mais très souvent, t'as l'impression que Nîmes, ils pouvaient même pas toucher le ballon, ils pouvaient pas le sortir le ballon.
Finalement, tu souhaiterais que Lyon s'assume comme un cador de ce championnat.
Bien sûr, mais c'est un cador.
Non, mais c'est un cador.
300 millions de budget.
En jouant à ce niveau-là.
En laissant aucune chance, en laissant aucune miette.
Tu sais que de toute façon, comme quand tu regardes le PSG en Ligue 1, tu sais que ça doit gagner au bout. Mais Lyon, ça doit être pareil.
En France, et peu importe le niveau, un petit clin d'œil à mon équipe, mais si tu arrives à inspirer la crainte et à inspirer l'idée, comme fait le PSG, comme fait Lyon de temps en temps, que de toute façon, il n'y a rien pour eux, comme on dit, bah, le match, il est déjà à moitié gagné.
Ou que ce sera un miracle si ça tourne pas comme c'est prévu.
Anthony, merci beaucoup de nous avoir appelé au 32-16. On te souhaite une excellente saison et de profiter de la Coupe d'Europe du côté du Parc OL. À très vite. On revient dans un instant pour parler du Mercato avec Oussem Loussaïef. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
22h46, c'est l'after. Tout à l'heure, on va vous parler de Lille, on va vous parler de l'Angleterre, le quiz de l'after également. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous appelez au 32-16 pour participer au quiz. Vous nous suivez sur RMC Live, évidemment, et vous participez autant que vous le souhaitez à cette magnifique émission. On commence à parler Mercato avec le Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Le Mercato avec Oussem Loussaïef qui veut avant toute chose donner la parole à...
Exactement, à mon coach du match de l'after.
Daniel, quel pressing.
Ah, le mec qui va être sélectionné la saison prochaine.
Non, mais je voulais continuer là-dessus, sur ce qu'on disait sur Lyon et ce qu'ils doivent faire. Et de la même façon, c'est absolument incompréhensible ce qu'on a vu de l'OM contre Reims samedi après-midi. C'est-à-dire que tu sois pas au point... Que tes combinaisons de jeu soient pas là, tout ce que tu veux, mais tu peux pas avoir des distances aussi espacées entre tes lignes, tu peux pas ne même pas fournir l'effort physique pour en gros aller essayer d'étouffer l'adversaire. À l'arrivée, on a l'impression que c'est Reims qui avait la meilleure équipe et que c'est Reims qui jouait mieux au ballon. Ça, c'est absolument pas normal. Que tu sois pas prêt, encore, il y a quand même eu une préparation d'un mois. Tu dois commencer à avoir les prémices de quelque chose, même si, ok, il a le temps de progresser, Villas-Boas et son équipe, mais au moins, je sais pas, Kevin. Tu diriges son équipe. Tu dis monter ensemble, faites quelque chose, quoi. Tu flippes avec l'horloge ou quoi?
Exactement. C'est exactement ça. Je flippe avec l'horloge.
Dire un horloger suisse. Calme-toi.
Non, mais après, le problème, c'est aussi le caractère. Je vais pas dire l'âge des joueurs marseillais, mais le profil de joueur qu'a l'OM. C'est des diesels. Strootman, c'est un diesel. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire que c'est encore plus inquiétant, alors.
Mais oui, mais.
Que tu pourras même pas jouer.
Cette équipe de Reims, on avait l'impression qu'elle avait la fibre et que Marseille était avec la DSL, tu vois. Voilà. Donc,
J'aime cette image,
difficile.
Ouais. Et d'ailleurs, t'es pas obligé de mettre Strootman, tu peux mettre Lopez, qui est une essence et qui aurait peut-être fait le travail un petit peu plus.
Mais Strootman, tu connais sa nationalité.
On passe au Mercato avec Oussem.
Je tiens à souligner que moi, je ne suis pas Neymar et que je respecte l'institution. Je vais laisser le temps de parole à mon coach.
Bien sûr.
Donc voilà. Allez, on démarre avec l'AS Monaco, Timothée.
S'il te plaît.
On connaît le nom, donc, du futur attaquant monégasque. C'est quelqu'un qui a presque le même prénom que moi. C'est Wissam Ben Yedder qui vient à Monaco contre un chèque de 40 millions d'euros. Contrat de 5 ans.
Il joue pas aussi bien que toi.
C'est vrai, ça c'est vrai. Je voulais pas le dire moi-même. Je préfère que ça vienne de ta
bouche. Avec un mec comme toi, le gars il met 25 buts, c'est vrai. Tranquille.
Tu vois, donc Monaco sait ce qu'il doit faire, quoi. Mais pour revenir sur Wissam Ben Yedder, c'est 40 millions d'euros. Il est déjà arrivé à Monaco. Il passe la visite médicale.
Quand
demain.
Même, 40 millions.
40 millions quand même.
Ils envoient lourd, hein.
Alors en plus de ça, il y a une négociation qui est en train de se faire concernant Ronny Lopez, qui pourrait rejoindre le FC Séville aussi. Et on parle d'un transfert de 20-25 millions d'euros. Donc Monaco.
Donc 40 pour Ben Yedder et que 20 pour.
Exactement. Donc Monaco achète très Ben Yedder à 15 millions d'euros à peu près.
Plus Ronny Lopez. On est avec Jean-Julien qui est supporter de Monaco. Bonsoir Jean-Julien.
40 moins 20, c'est 15.
Bonsoir l'équipe. 25.
Merci beaucoup de nous avoir appelé au 32-16. Pour toi, l'arrivée d'un neuf, et en l'occurrence de Ben Yedder, c'était indispensable, urgent?
Ah ben oui, très clairement, oui. Non mais là-dessus, il n'y avait pas photo. On a bien vu avec les deux jeunes de CFA devant ce que ça a donné contre Lyon. Bon, on n'avait pas de grands espoirs sur une possible victoire, mais bon, de là à 33-0, après le match aussi a un petit peu mal tourné, mais oui, c'était nécessaire. C'était clairement nécessaire d'avoir une recrue en attaque, et il faut pas s'arrêter là d'ailleurs. Hein. Bon, on en a un deuxième, on a eu Kourou là, le Nigérian.
On va en parler.
Bon, il est plutôt ailier, mais je pense qu'il va remplacer tout simplement Ronny Lopez, qui lui.
Et si Roboloviev arrive à convaincre Falcao de rester, parce que Falcao, le problème, c'est que s'il doit déménager, donc c'est le club qui le veut, c'est Galatasaray.
C'est ça.
Visiblement, sa famille se sentira mieux à Monaco qu'envisager Istanbul. Et si jamais il y restait aussi, là, tu auras une doublette super intéressante.
Oral, hein, ce qu'on appelle un accord oral avec Galatasaray, mais Monaco n'a pas encore d'accord avec le club turc.
Parle-nous, Jean-Julien, avant de revenir vers toi, on va parler justement de cette autre recrue, Oussem.
Henri Onyekuru, qui a obtenu son permis de travail, le deal était bouclé il y a quelques jours, même voire quelques semaines, et l'attaquant nigérian de 22 ans qui appartient à Everton a obtenu donc son permis de travail. On parle d'un transfert se situant autour de 13 millions d'euros pour un contrat de 5 ans, et on parle là d'un très grand espoir du football africain.
Jean-Julien, on a l'impression que enfin l'AS Monaco a mis la main au porte-monnaie, parce que là, mine de rien, ça fait 53 millions si je calcule bien pour sa ligne d'attaque. Il était temps. Et est-ce que ça te rassure un petit peu par rapport à la saison monégasque?
Oui. Je peux pas dire le contraire. De toute manière, vu ce qu'on a vu, c'était clairement nécessaire d'avoir des recrues. Et comme je l'ai dit précédemment, faut pas s'arrêter là. Faut continuer. Il y a des pistes. Bon, je pense notamment à Matuidi. Ça a été relancé apparemment. J'ai vu récemment là. Mais tout récemment, je crois ce soir, Irving Lozano, on en parlait à Naples, mais il y a des petits problèmes sur le droit d'image. Donc du coup, Monaco se serait mis dans la danse. C'était une info France Football, hein, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Donc il faut continuer, il faut pas s'arrêter là. Et après, pour Falcao, pour en revenir à Falcao, je pense que tout simplement, il joue la montre en fait. Hein. Il joue la montre. Lui, il aimerait rester à Monaco, comme vous l'avez dit, par rapport à sa famille. Et en fait, il veut un nouveau contrat. Je pense tout simplement qu'il veut un nouveau contrat. Après,
Jean-Julien. Tu parlais de Lozano. Or, je sais pas du tout si ça pourra se faire avec Monaco. Mais par contre, je vais être obligé de vous parler de Onyekuru. Moi, je l'ai commenté l'année dernière sur RMC Sport. Quand même, deux matchs, c'était contre le Benfica, je crois. Et c'est plus un tout droit, comme dit Daniel, que tu vois, Lozano, c'est autre chose quand même. Bon, après,
pas le même prix.
Voilà, c'est pas le même prix, Onyekuru, c'est sûrement un joueur qui a du potentiel, mais bon, je demande à voir. Hein. Pour moi,
Lozano, il est encore en Hollande.
Il est encore au PSV. Ouais.
Mais je pensais depuis plus d'un an qu'à la fin de cette saison, c'était déjà acté comme quoi il partait, tout ça.
Ah, mais
personne n'est allé le chercher encore.
Le PSV,
non, mais c'est ce que disait Jean-Julien. Il y a une histoire de droit d'image et il y a plusieurs sociétés en fait qui disposent de ce joueur-là et donc tout le monde se mette d'accord et tout le monde. En fait,
c'est compliqué.
C'est un petit peu complexe effectivement. Merci beaucoup Jean-Julien. On te souhaite une excellente saison avec ton club et de remplir fréquemment les travées du stade Louis II. On passe à Rennes qui lorgne sur Jonas Martin. Non mais je l'invite à aller au stade Louis II pour les remplir. Ah. S'il te plaît.
Les supporters de l'ASM, ils vont au stade Louis II.
Oui, j'aimerais que ce soit plus nombreux à le faire. On veut des stades pleins.
Tu disais que Rennes lorgnait sur un joueur.
C'est exactement ce que je disais.
Oui, sur Jonas Martin. C'est Jonas Martin, milieu terrain titulaire de Thierry Loret, qui est donc la cible des intérêts.
Ça peut se faire, ça?
Comment?
Ça peut se faire.
Alors. Je vais t'expliquer.
Pour Strasbourg, c'est énorme coup dur. Hein.
Strasbourg a proposé donc une prolongation de contrat à son milieu de terrain qu'il a lui-même refusé. Ah. Rennes a fait une offre que le club strasbourgeois a refusée. Donc pour l'instant, on est sur un statu quo, sachant que le joueur, lui, est intéressé par le projet rennais. Je pense que d'ici quelques jours, ça va se décompter. Il y aura soit une prolongation ou soit un transfert.
Nîmes et Dijon cible un ancien Parisien.
Youssouf Moulumbou qui évolue du côté du Celtic Glasgow.
Moulumbou, wow, quel âge il a maintenant?
Il a 32 ans, bientôt. 31 ans.
Ouais, à l'époque, il était tout jeune. Donc,
voilà. C'est un très
capitaine
bon joueur.
Congolais.
Exactement, international congolais, qui est donc la cible des intérêts de Dijon et de Nîmes. Les deux clubs sont entrés en contact avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris en travaillant sur ce dossier-là, c'est Peggy Liundula qui s'occupe du dossier pour Dijon, lui qui est conseiller du président dijonnais.
Très bien.
Un joueur de Ligue 2 prend la direction de la Bundesliga.
Alors, en général, Daniel n'aime pas parler des joueurs de Ligue 2 parce qu'il veut des gros sous. Mais j'en parle puisque ce joueur-là a été la cible d'intérêt de plein de clubs, dont l'Olympique de Marseille. On parle de Silas Wamangituka, c'est l'attaquant du Paris FC, qui prend la direction donc de la Bundesliga. Il arrive à Stuttgart contre un chèque de 8 millions d'euros. Une belle affaire pour le Paris FC.
Ouais, effectivement, pour le budget du PFC, c'est énorme. C'est énorme.
Ah, le président Ferracci, là, d'un coup, il va rentrer de l'oseille, là, comme il n'a jamais vu, là.
Il a bien vendu.
Ouais, bon, il va falloir qu'il prenne des points aussi.
8 millions pour le PFC, mais si tu rachètes le club en entier, le stade Charlety, le centre d'entraînement, où est-ce qu'ils l'ont?
Et la ligne de Orly,
mais en plus,
tu as Orly, une piste d'atterrissage.
Il joue en équipe première.
Exactement. Il a 19 ans, on le rappelle, il est tout jeune.
Un joueur nettement moins novice, Eliakim Mangala quitte Manchester City.
Et oui, fin de la situation de doute pour lui du côté de l'Angleterre.
C'est vrai, il joue plus au foot, lui.
Eh ben, ça faisait un moment, on dirait, il était blessé. Il lui restait un an de contrat du côté de Manchester City. On lui a libéré son année de contrat et donc il s'est engagé il y a quelques minutes avec Valence, un club qu'il connaît déjà.
Ah ouais, il était déjà.
Il a évolué là-bas et donc il s'engage jusqu'en 2021.
Et puis le Bayern Munich réfléchit à l'option Coutinho.
Oui, alors qu'on sait que le Paris Saint-Germain discute avec le FC Barcelone pour Coutinho, le Bayern aussi est entré en contact avec les agents de Coutinho. Et comme ils sont spécialistes du prêt au Bayern Munich, on le sait avec James Rodriguez, ça a été le cas, ils ont demandé, ils se sont renseignés sur un prêt pour un an ou deux ans concernant Coutinho. Lui n'est pas contre l'intérêt du Bayern, mais il attend de voir si la situation se décante avec le Paris Saint-Germain.
Messieurs Lewandowski réclamait des joueurs pour le servir. Coutinho, bah, c'est le bon profil.
Ah, c'est la classe, Coutinho, c'est un très bon joueur, bien sûr.
Ouais, Coutinho, moi j'ai dit que c'était le choix qu'il fallait faire, en tout cas si le PSG devait choisir quelqu'un pour mettre dans un échange quelconque avec Neymar.
Perisic a passé sa visite médicale ce matin au Bayern, justement.
Et oui, le renfort après les départs de Robben et Ribéry à la retraite, c'est
très bien, Ivan Perisic.
Perisic
genre de côté, bien.
Une belle affaire économique.
Et il sera mieux au Bayern qu'à l'Inter où il se faisait chier. Là.
Antonio Conte n'en voulait plus de toute façon. Près d'une saison, 5 millions d'euros le prépayant, avec une option d'achat à 20 millions d'euros seulement.
Une bouchée de pain pour
l'international. Croate.
Imaginons Perisic, Coutinho pour servir Lewandowski, le Bayern en redevient un candidat crédible à la Ligue des Champions.
C'est un bosseur, c'est pas qu'un passeur.
C'est bien.
Kevin, le Bayern pourrait redevenir un candidat sérieux à la Ligue des Champions avec cette attaque-là.
Après, on sait pas. Moi, j'ai bien aimé le Bayern pendant l'Audi Cup sur RMC Sport. On avait vraiment une belle équipe avec Gnabry, Coman, mais aussi un énorme Thiago Alcantara au milieu. Vraiment exceptionnel.
Ils ont une super équipe.
Ils ont une belle équipe.
Au milieu, derrière.
Tolisso qui était pas mal.
La défense, tout est bien dans leur équipe.
On termine avec Rodrigo. C'est l'autre gros coup de l'Atlético.
Et oui, c'est l'attaquant de Valence qui a passé 6 saisons du côté de Valence et qui devrait rejoindre l'Atlético de Madrid. On parle d'un transfert de 60 millions d'euros pour celui qui est désigné comme le remplaçant d'Antoine Griezmann.
Atlético.
International espagnol. Est-ce que
franchement l'Atlético, bravo à eux parce que avec le départ.
Ils chialent pas là parce que Griezmann est parti. Comment ça va marcher? Comment ceci? Comment cela? Puis ça, ils bossent, ils sont à fond. Ils sont pas en train de chialer comme nous ici là. Ah machin, il est parti à Neymar. Comment ça va marcher maintenant? On a plus les décalages. On fait plus ici. Oh là là, putain, que ça peut m'énerver quand les mecs chialent parce qu'un joueur s'en va. Ah, mon Dieu.
Il y a un joueur que je conseille. Bon, allez, j'allais dire au PSG qu'il y a que Luc. Il voulait, le Paris Saint-Germain voulait à un moment un jeune Portugais qui s'appelle Florentino Luis, qui a depuis re-signé avec Benfica. J'annonce futur crack mondial au poste de numéro 6. Exceptionnel ce week-end encore en championnat portugais.
C'est noté, c'est enregistré. Daniel en a marre quand on chiale, quand un joueur s'en va. C'est interdit, sauf quand c'est Totti peut-être. Bref, on reviendra tout à l'heure pour la deuxième heure de l'after. On parlera de Lille avec un recrutement prometteur. On parlera de l'Angleterre. Les cadors sont déjà bel et bien là. Et puis il y aura le quiz de l'after. A tout de suite pour la deuxième heure de l'after.
RMC L'Afterfoot.